Alors bonsoir à tous. On va continuer aujourd'hui avec la série du coup sur la métamorphose, sur la transformation. Et le thème qu'on a choisi de partager avec vous ce soir, c'est « J'ose la métamorphose dans ma mentalité ». Alors pour illustrer ce thème aujourd'hui, avec Pascal, on a décidé de prendre une lampe pour symboliser ce qu'il y avait dans la tête en fait. Donc ça va être le symbole de ce soir, du message du jour. Alors on a déjà parlé de la métamorphose, on a vu que ça venait du grec métanoïa, qui signifiait justement le changement de mentalité, d'intention, d'avis. Alors j'ai repris la définition exprès parce qu'en fait je trouve qu'elle tombe juste à point. On parle de mentalité ce soir et avant de continuer plus loin, on va définir en fait de quoi on va parler. J'ai trouvé du coup deux définitions de la mentalité. J'en ai mis qu'une seule à l'écran. La mentalité, c'est un ensemble de manières habituelles de penser, de croire, qui peut être commun à un ensemble d'individus. Donc on voit que... C'est pas grave, on voit pas en fait. La mentalité, c'est quelque chose de répétitif. Donc c'est un ensemble de pensées qui se répète, qui revient souvent. On voit aussi une autre définition qui m'a beaucoup parlé, c'est pour ça que je l'ai ajoutée. On voit que c'est l'ensemble des habitudes intellectuelles, des croyances et des dispositions psychologiques caractéristiques d'un groupe. On voit qu'en fait, on se dispose à entrer dans une certaine mentalité. Et ensuite, on s'habitue. Mais ça vient de quelque part, ça. Alors, on va s'interroger, on va se demander d'où est-ce que vient notre mentalité. En fait, juste avant, on avait choisi quelques questions en fait, pour vous aider à réfléchir ce soir-là. Et en fait, chacune de ces questions va illustrer un point de ce qu'on va aborder. Les questions, est-ce qu'elles peuvent apparaître? Non? Bon, il faudra juste les retenir. Alors, je vais juste les dire et puis... OK. Première question, est-ce que, à votre avis, les Noirs sont plus chaleureux que les Blancs? Une question. On n'a pas de réponse, c'est juste pour nous aider à réfléchir. C'est pour illustrer un de nos points. Deuxième question, est-ce que la vie est un cadeau? Bon, il y en a qui savent déjà qu'ils ont leur propre réponse. Dernière question, faut-il avoir les meilleures cartes en main pour réussir dans la vie? Donc les meilleures cartes, la richesse, la beauté, l'intelligence, etc. Donc voilà. On va revenir sur chacune de ces questions et en fait on va essayer de, pas d'apporter une réponse comme j'ai dit, mais vraiment de nous aider à réfléchir et peut-être qu'il y a d'autres questions qui sont peut-être plus pertinentes ou qui vous concernent plus, que vous pouvez remplacer, enfin vous pouvez remplacer celle-ci par celle que vous avez. Donc on revient à la question... d'où vient notre mentalité? Il y avait plusieurs réponses. La réponse que moi j'ai choisi de mettre ce soir, c'était notre mentalité nous vient de notre culture. Elle nous vient aussi de notre vécu. Elle nous vient aussi de notre milieu familial. Alors j'ai mis nos parents parce que c'était les premières personnes en fait qui venaient dans l'éducation d'une personne. Et j'ai mis en dernier nos croyances. Alors, la culture, pourquoi la culture? La culture, ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qu'on apprend. On met un individu dans un milieu, il va adopter cette culture, dans un autre milieu, ce sera autre chose, le même individu. C'est quelque chose donc qui est appris, il est transmis, il produit et crée au sein d'une société des caractéristiques qui les distinguent ou qui les rapprochent d'une autre société, en fait. On peut se dire qu'il y a une telle caractéristique qui va... caractériser un groupe, alors on parle de l'ouverture d'esprit des Canadiens, il y a d'autres choses comme ça. Donc c'est un ensemble de caractéristiques. Ok. Cet ensemble de caractéristiques qui est transmis, appris, en fait il va surtout concerner l'individu au premier plan dans son mode de vie et dans tout son système de valeurs. Donc c'est sur ça que va reposer souvent son jugement. Par rapport à notre vécu, donc là c'est plus simple, c'est les expériences passées, notre histoire personnelle, qui crée notre mentalité quelque part. Pour le point de nos parents, alors là c'est un peu différent, on a deux options. Soit on décide de leur ressembler, on les imite tout simplement, au moins au début de notre vie, ou soit on décide au contraire de ne pas leur ressembler. Et du coup, peut-être dans ces cas-là, on a tendance à dire « Non, mes parents, ils ne m'influent pas parce que moi, je fais totalement l'opposé. » Ah ben, tu fais l'opposé parce que quelque part, tu réagis en fonction de l'éducation que tu as reçue de tes parents. Alors, pendant qu'on préparait ce message avec Marcel, en fait, elle m'a raconté une histoire et je trouve que ça illustre très bien ce point-là. Alors, c'était l'histoire d'une famille qui avait un petit chien, en fait, une chienne, d'ailleurs. Il avait une petite chienne et cette chienne, elle a eu un accident. Un jour, elle s'est fait renverser et elle s'est mise à boiter. Alors, vu qu'elle n'avait rien de plus en dommage, ils ont décidé de ne pas l'emmener chez le vétérinaire et elle a continué à marcher comme ça. C'est devenu sa démarche normale. Plus tard, cette chienne, elle a eu des enfants, une portée. Et au début, ils commençaient à marcher, ils marchent normalement. Et avec le temps, on a remarqué qu'ils se mettaient à marcher avec une démarche bizarre. En fait, ils avaient adopté le boitement de leur mère. Et en cela, ils l'avaient imité. Alors nous, c'est plus discret, mais on a tendance à emprunter comme ça des caractéristiques aux gens qui sont autour de nous. Et le dernier point, nos croyances, en fait, je l'ai mis en quatrième point, mais ça découle directement des trois premiers. Et en fait, on peut avoir, par exemple, les meilleures intentions du monde et en fait, à cause de notre mentalité, à cause de nos croyances, en fait, on va développer, par exemple, quelque chose qui peut parler. C'est pas bien pour une fille de mettre un pantalon, par exemple. C'est pas quelque chose de spécialement méchant, mais on se dit, c'est pas bien pour une fille de mettre un pantalon, et c'est une croyance qu'on a, on veut pas forcément l'imposer. Et parfois, c'est pris violemment, en fait. On a certaines de nos croyances qui peuvent être prises violemment si on le dit peut-être dans un contexte donné, avec un ton donné, je ne sais pas. Et dans la Bible, en fait, je voulais parler d'une personne en fait, qui avait, elle aussi, des croyances et qui l'amenait à être, on va dire, du mauvais côté. Je vais parler d'un pharisien, en fait. Et en fait, on va voir que cet homme-là, c'était l'homme... il ne venait pas devant Jésus avec des mauvaises intentions comme on peut voir avec d'autres pharisiens. Là, on va parler de Nicodème. Nicodème, c'est un chef de la loi très réputé, très riche, qui a vraiment tout... il n'a pas intérêt à se mettre du mauvais côté puisqu'il a vraiment des gens qui le regardent. Il est haut placé, il a beaucoup de choses à perdre. Nicodème, en fait, un soir, donc il va venir... il va venir voir Jésus, il va lui poser des questions. Parce que, au contraire des autres pharisiens qui venaient voir Jésus en plein jour pour lui poser des questions pièges, pour chercher une raison de le condamner, lui, il avait vraiment une démarche de vraie sincérité de cœur. Donc, il avait adopté le dogme qui était présent à l'époque, mais ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait, ça l'a interpellé. Et il a décidé d'aller lui demander, de lever ses doutes. Et c'est même lui qui, quand Jésus est mort, en fait, va fournir le nécessaire pour l'enterrer dans les meilleures conditions, parce qu'on voit que lui, il a été touché. De base, c'était un pharisien, on aurait pu croire que, ah oui, il a un système de pensée qui est mauvais parce que ses croyances et tout. Mais on voit que cet individu-là, d'une part, il a changé, mais d'autre part, il était sincère dans sa démarche. Quand il avait ses croyances, ce n'était pas pour mettre à mal quelqu'un, c'est vraiment quelque chose qu'il avait sur le cœur. Du coup, on a vu que la mentalité, du coup, elle venait de ces quatre points-là, mais elle a des conséquences, notre mentalité. Notre mentalité, elle agit sur ce que l'on pense des autres et de soi-même. Donc, par exemple, si je pense qu'une personne qui a les yeux verts, c'est une personne qui est forcément jolie, et que je n'ai pas les yeux verts, du coup, je n'entre pas dans la case des personnes jolies. Et tout le monde qui n'a pas les yeux verts rentre dans la case des personnes qui ne sont pas jolies, justement. Et là, j'ai pris un exemple exprès léger. Mais on peut remplacer la couleur des yeux par n'importe quelle autre caractéristique. Et on voit que les dégâts peuvent être beaucoup plus grands. Donc la mentalité, elle agit sur ce qu'on pense des autres et de soi-même. Deuxièmement, la mentalité, elle agit sur nos actes. Alors Pascal, il avait pris dans son message une diapo qu'il a remise sur le groupe Facebook. Et en fait, la toute première phrase de cette diapo, elle disait « Qui sème une pensée, sème un acte ». En fait, ce que ça nous dit, cette diapo, c'est qu'avant d'agir, il y a quelque chose derrière, il y a une pensée. Avant de faire une action, il y a une pensée. Admettons, c'est impossible de se retrouver à sauter en parachute si on n'y a pas pensé d'abord, si on n'a pas fait la démarche pour le faire. Sauf si on est dans un rêve, mais autrement dans la réalité. Si on fait quelque chose, c'est qu'on y a pensé. On va saluer quelqu'un, c'est qu'on y a pensé. Enfin, toutes sortes de choses. Donc, notre mentalité, donc cet ensemble de pensées, ça agit sur nos actes. Et en dernier point, sur nos caractères. On voit qu'il y a quelque chose, en fait, qui est... cette mentalité, elle n'est pas immuable. On l'a à un moment donné, mais on va s'intéresser à savoir qu'est-ce qui fait évoluer notre mentalité. Alors, ce qui fait tout d'abord évoluer notre mentalité, c'est notre âge, notre maturité. Deuxièmement, ça va être, on va dire, les gens que l'on côtoie. En fait, par exemple, si on souhaite ressembler à Jésus, on va essayer de chercher ce qu'il a fait, on va lire la parole et on va vraiment mettre toutes nos pensées, essayer de réfléchir et vraiment se laisser éclairer. Et peu à peu, en fait, on va lui ressembler. J'ai un autre exemple aussi, c'est avec des personnes handicapées. Admettons, on a une croyance qui est ben, les personnes handicapées, elles sont très limitées dans ce qu'elles peuvent faire, du coup, elles ne font pas grand-chose. Et puis là, tu tombes sur un reportage, un tel personne handicapée qui court le marathon, qui fait le tour du monde, ou je sais qu'il y a des prédicateurs qui sont dans ce cas-là. On a vu dernièrement Nick Jijuvic, qui, malgré ce qu'on peut croire au premier abord, ben, il fait beaucoup de choses. Et en fait, c'est en se confrontant, en côtoyant, en fait, en s'ouvrant plutôt à d'autres personnes, c'est là qu'on finit par changer notre mentalité. Dans tous les cas, le changement commence dans notre esprit. Pour changer notre mentalité, pour qu'elle soit en harmonie avec celle de Dieu, du coup, il faut s'exposer à sa parole. Si on ne change jamais de mentalité, on ne peut pas changer notre caractère. En fait, c'est même impensable. Enfin, il y avait Albert Einstein qui disait quelque chose. Il disait, en gros, j'essaie de resituer, il disait que si on faisait toujours les mêmes choses en s'attendant à avoir un résultat différent, c'était la folie, en fait. C'était de la folie. Donc, on ne peut pas dire « oui, je veux que mon caractère change » et puis rien faire, en fait, rien changer et puis juste espérer que ça change. On peut comparer une pensée à une graine. Une graine, on la plante, une graine de pomme, on la plante, et ça nous donne un pommier. De la même façon, si on plante, si dans notre tête, on a des pensées positives, on a des pensées de compassion, d'amour, de joie, de victoire, ça dépend. Ben, en fait, c'est ce qui va arriver peu à peu, et notre entourage pourra en témoigner, pourra nous voir, puis vous pourrez voir la transformation s'opérer au fur et à mesure. La vérité, c'est que si on arrive à mettre nos pensées en phase avec celles de Dieu, enfin qu'on peut y arriver si on le veut vraiment, il nous faut être déterminés. Et aussi, on sait que toute chose est possible avec Dieu. Notre seule part dans cette histoire, ça va être d'étudier, de lire sa parole et de laisser le Saint-Esprit nous parler. Pour illustrer encore le propos de nos actes, en fait, on peut voir dans Luc 6, verset 45, on peut voir « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que ce qu'on va produire, en fait, ce que je disais avec l'image de la graine, ce qui va ressortir de nous, c'est ce qui va, ça va commencer d'abord par ce qui est dans notre esprit, dans notre mentalité, dans nos pensées. C'est pour ça qu'il faut veiller sur son cœur plus que sur toute autre chose. Et puis si on croit que c'est difficile, il faut juste persister, insister, parce que Dieu dans sa parole dit aussi, dans Philippiens 4, 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Donc on voit que pour changer, pour atteindre la transformation, du coup, on peut agir sur nos pensées. Paul, dans sa parole, on voit que dans 2 Corinthiens 10, 3, il y a Paul qui nous explique que le combat dans lequel on est engagé, c'est pas un combat de la chair, c'est un combat qui est spirituel, ça se passe avant tout à l'intérieur. Bien sûr, on a le diable qui peut tenter de mettre des fausses pensées dans notre esprit pour nous empêcher de connaître la joie de Dieu, mais on peut lui résister en fait. On peut choisir d'avoir des pensées justes, même s'il y a des pensées peut-être mauvaises qui viennent s'insérer, on peut choisir de les laisser derrière et puis de se fixer sur les pensées de Dieu. Et pour ça, on peut utiliser une arme spirituelle que Dieu met à notre disposition, c'est sa parole.
On va parler de quelle manière voyons-nous les autres ? et la vie. Pour commencer, on va parler de nos regards que nous portons sur les autres, ton voisin, tu le connais, tu ne le connais pas. On va parler du regard que nous portons sur ces personnes-là lorsque nous les rencontrons pour la première fois. On a tendance à se dire, à mûrir dans nos pensées, regarde comme elle est habillée, aucun style, aucune prestance. Elle m'a l'air sympathique ou pas du tout. Elle est très bizarre comme personne. On n'a pas la même culture. En fait, toutes ces pensées se résument dans deux mots. C'est l'image involontaire, en fait, que cette personne donne et que nous, on reçoit. En fait, l'image involontaire, c'est tout ce qui émane de la personne dans sa façon d'être, sa façon de se comporter. C'est aussi l'image qu'il renvoie malgré lui. C'est-à-dire son physique, sa gestuelle, l'intonation de sa voix, sa tenue vestimentaire. Dès le premier regard, en fait, on a automatiquement les pensées de jugement. On juge la personne malgré lui. On se focalise souvent sur les défauts de cette personne. Au lieu de chercher à connaître en fait, ses qualités et aussi d'apprendre à les apprécier. C'est en tout cas plus facile d'apprécier une personne d'emblée sympathique et même beaucoup moins face à d'autres personnes, n'est-ce pas? Ok, bien. je suis convaincue qu'en portant en fait, des regards positifs sur l'autre, qu'ils soient connus ou inconnus, on peut tous contribuer à faire du bon autour de nous et puis également contribuer à son épanouissement. Parce que nous sommes tous amenés à vivre en communauté. Donc, essayons en fait de ne pas juger, d'essayer d'avoir des regards positifs. Oui, vous allez me dire que c'est difficile. Je suis d'accord, moi aussi je peux le dire souvent. C'est difficile dans le sens où nous nous protégeons nous-mêmes. Nous avons tous vécu des déceptions. Il nous arrive à tous de nous sentir agressés par l'autre. Donc, on a tendance à se refermer. On a tendance à ne pas faire confiance. Bon, je n'ai pas dit de faire confiance tout de suite, mais en fait, faudrait pas en fait produire des pensées négatives dès qu'on rencontre une personne pour la première fois. Et en fait, il faudrait qu'on essaie d'avoir dans nos pensées des pensées positives. Même si on ne connaît pas la personne, même si c'est la première fois qu'on la rencontre. Il faut être capable en fait, de regarder chaque situation et chaque personne avec le regard neuf, sans jugement. Je vais prendre un exemple tout simple. En fait, c'est l'exemple de Jésus. Il n'a pas regardé à nos péchés et il nous a aimés en donnant sa vie. S'il avait ce regard négatif de péché, aujourd'hui, on n'allait pas être sauvé. Aujourd'hui, on n'allait pas être rempli de son amour. Ça n'allait pas être possible. Il nous a vus comme la créature de son Père, qui est aussi notre Père, qui est Dieu. Et il est venu, il a donné sa vie. Il est venu, nous a communiqué son amour. Alors, essayons de communiquer en fait l'amour autour de nous. Je vais prendre l'exemple de Pierre, en fait, dans Actes des Apôtres, au verset 10. Au tout début du chapitre, Pierre il a fait un rêve où on lui présentait en fait de la nourriture impure qu'il refusait de manger. Et dans la suite du rêve, au verset 15, il est dit à nouveau pour la deuxième fois, la voix lui parla. C'était l'ange qui s'était révélé à lui dans le rêve. Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considère pas comme pur. En fait, je ne veux pas vous parler d'une nourriture, ne le considère pas comme impur, merci. Je ne veux pas vous parler d'une nourriture pure ou impure, ce n'est pas le but de ce truc, de ce verset. En fait, je voudrais que vous voyez en fait, le changement qu'il a eu. Quand on part au verset 28, il s'est rendu, en fait, je vais un peu raccourci l'histoire. Il s'est rendu chez Corneille et tout ça, et il a vu des juifs, des non-juifs, il y avait plein de personnes. Et il a dit, vous savez, leur dit-il, qu'il a interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. Ce que je veux vous montrer, en fait, c'est le changement de mentalité qu'il y a eu vis-à-vis des autres, que Pierre a eu vis-à-vis des autres. Dans son rêve, il ne voulait pas manger de la nourriture impure. Mais Dieu lui a dit, ce que moi j'ai déclaré pur, toi tu ne peux pas le déclarer impur. En gros, c'est pour dire que être non-juif, être juif, il n'y a pas de problème. On est tous les mêmes personnes. Être sympathique, ne pas bien s'habiller, ne pas venir de la même culture, ça ne signifie rien. Parce qu'on est pareil. Parce que Dieu l'a choisi comme il nous a choisi, nous aussi. Donc on est tous frères et sœurs en Christ. On va continuer avec la question, est-ce que la vie est un cadeau? Je laisse la place à Daniel pour vous expliquer.
On avait des questions pour nous aider à poser la réflexion sur ce sujet du changement de mentalité. Et une des questions, c'était est-ce que la vie a un cadeau? Du coup, je ne sais pas pour vous, qu'est-ce que vous pensez de cette question? Je sais que dans la Bible, il y a une réponse en tout cas, mais ce n'est pas forcément la même qu'on trouve dans le quotidien des gens, dans le monde. Et par rapport à ça, je voulais dire qu'on avait probablement tous vécu des choses difficiles, alors plus ou moins, dans notre passé. Et qu'à cause de cela, on disait, oui, la vie, franchement, c'est pas facile, voire c'est pas un cadeau, ou j'ai même pas demandé à être là. Enfin, y a toutes sortes de pensées qui peuvent venir comme ça. Et en fait, l'idée, c'est pas de diminuer ce qui s'est passé, de diminuer ce qui est peut-être arrivé, mais c'est surtout de se dire, oui, ok, il est arrivé des choses graves, mais comment maintenant, moi, j'agis, comment moi, je décide d'avancer maintenant? Est-ce que je décide de rester sur cet enchaînement de pensées, de vraiment de me focaliser là-dessus, ou est-ce que, comme on l'a chanté tout à l'heure, je lève les yeux et je regarde plus loin? Est-ce que je peux me permettre de me dire, ben, ok, il s'est passé ça, mais maintenant je vais voir la vie comme une opportunité. Je vais faire des choses, je vais m'appuyer sur Dieu et je vais faire des choses qui vont me permettre d'avoir un futur meilleur, en fait, de me relever de ce qui s'est passé.
Au tout début, Daniel a dit, si nous voulons changer, nous voulons être transformés, on peut le faire avec la parole de Dieu. On va parler du troisième point, la métamorphose par la parole de Dieu. Pour illustrer cette partie, j'ai pris Romains 12 du verset 2 à 3, mais le verset 2 parle plus, mais considérons également le verset 3. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour la suite, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon sa mesure de foi que Dieu lui a donnée. Oser la métamorphose dans notre mentalité en tant que chrétien, c'est accepter que Dieu nous transforme, nous renouvelle à travers sa parole. La parole de Dieu est une lumière, elle éclaire nos pensées. Le psaume 119, 115 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Elle nous enseigne également, elle nous éloigne en fait de l'ignorance. Et elle nous ouvre les yeux afin que nous ayons un autre regard sur la vie, sur les autres. C'est une parole de révélation qui est agissante lorsque nous la recevons. Elle nous transforme et elle nous emmène en fait à vivre une nouvelle vie. Hébreux 4, 12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle est tellement puissante, elle est tellement forte qu'elle nous transforme complètement. Vous avez vu, elle partage l'âme et l'esprit. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Cette parole, en fait, elle nous transforme complètement. Pas partiellement, mais complètement. En fait, pour résumer mon petit speech, en fait, cette transformation vient par la révélation de la parole de Dieu, à travers le Saint-Esprit qui est en nous, que Dieu nous a donné. Il nous éclaire pour que nous soyons attentifs à la parole afin qu'elle nous transforme. Elle nous transforme complètement. Je vais prendre en fait l'exemple de Paul, qui était Saul de Tarse, qui est devenu Paul. Il vivait en fait sous la loi, selon les préceptes de l'Ancien Testament. Il les appliqua de tout son cœur. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, sur le chemin de Damas, sa vie a été profondément transformée. Ça a été profondément bouleversé. Si chacun connaît l'histoire de Paul, on sait bien que c'était lui qui persécutait l'Église, qui persécutait les chrétiens. Donc une personne qui était comme ça, et aujourd'hui, ce n'est pas la même personne. Il n'était plus le même homme, il voyait le monde avec d'autres yeux, parce que Dieu s'est révélé à lui, parce que Dieu l'a transformé. Ses pensées étaient nouvelles, c'était les pensées de Dieu. Désormais, il vivait sous la grâce. Sa transformation, elle était totale. Il était un guerrier qui obligeait la force, comme je viens de le dire. Il est devenu un apôtre rempli de l'amour de Christ, prêchant la grâce. Mais cela ne signifie pas qu'il faut s'arrêter à cette étape. Il faut combattre, lutter pour préserver en fait cette transformation. Paul lui-même, il l'a dit dans 2 Timothée 4, verset 5, « J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. » Il ne faut pas s'arrêter à une transformation partielle. Il faut penser à une transformation total. Il faut combattre. Parce que si nous prenons aujourd'hui le choix de changer, d'être transformé, le diable, le petit malin, il ne va pas nous laisser. Il ne faut pas rester assis là comme ça pour dire « Ok, j'ai décidé de changer, j'ai décidé de oser la métamorphose. » Et on reste comme ça. Mais il faut combattre, il faut garder la foi. Il faut combattre avec quelle arme? Avec la parole de Dieu. Dieu nous a appelés à être renouvelés et à vivre une réelle transformation. Il n'est pas le Dieu du changement superficiel, comme je viens de dire, mais celui de la transformation réelle, authentique. La vie avec Christ est merveilleuse, non seulement parce qu'elle nous amène à expérimenter la métamorphose de Dieu, mais aussi parce qu'elle fait de nous des messagers d'espérance et de liberté. Pour conclure, en fait, je vais dire « Suivre la voie de Dieu » qu'il a tracé pour nous va bouleverser complètement notre vie. Notre mentalité également. Il n'est pas question de simples changements, car ils sont bien trop superficiels. J'insiste en fait sur ce mot. C'est pas simple, c'est superficiel quand c'est des simples transformations. Il s'agit d'une transformation, d'une métamorphose complète. Alors je vous invite à oser la métamorphose dans votre mentalité. Dieu nous invite à vivre une vie nouvelle, une vie transformée, une vie extraordinaire parce qu'il nous aime. Il nous aime, il nous a choisis, il nous a créés à son image. Il a créé l'autre à son image. Il a créé la personne que tu ne connais pas, que tu vois pour la première fois à son image. Jésus est venu, il nous a enseigné son amour. Quand nous lisons la parole, nous voyons l'amour de Dieu qui est manifesté en chacun de nous. C'est le Dieu qui a été hier, c'est le Dieu d'aujourd'hui et c'est le Dieu de demain. Son amour, ce n'est pas l'amour de l'Ancien Testament ou des temps passés. C'est son amour, en fait, il est... C'est en fait, son amour, il existe encore aujourd'hui, c'est le même. Alors ose la métamorphose dans ta mentalité. Tu es un enfant de Dieu. Tu es chrétien. Tu as son amour. Tu as sa parole qui est ton arme pour combattre les fausses mentalités, pour combattre les pensées négatives. Alors ose la métamorphose dans ta mentalité. Pour terminer, j'aimerais bien qu'on prenne le psaume 139, verset 23, que nous chantons aussi souvent. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Je voudrais que chacun de nous fasse cette prière-là. Demande vraiment à Dieu de sonder son cœur, de connaître ses pensées. Alléluia. Seigneur, je veux te bénir pour ce soir. Je veux te dire merci, Père éternel, parce que tu nous enseignes à travers ta parole. Merci, Père éternel, parce que à travers ta parole, Seigneur, nous sommes renouvelés. À travers ta parole, Père éternel, nous avons un nouveau regard. Nous sémons, Père éternel, des pensées positives, Père éternel, pour l'autre, pour nous-mêmes, pour la vie, Père. Et je veux te dire merci pour cela. Merci pour tout.